Lorsqu'une personne vient me voir, se présente, me raconte sa vie, je peux avoir l'esprit comme un tableau de ce qu'elle me raconte, de ce qu'elle décrit. Un tableau avec les principaux personnages dont les tailles, les proportions varient, et d'ailleurs des proportions significatives. Ce n'est pas comme un dessin d'enfant qui représente sa famille, c'est plutôt, c'est beau, c'est un Fra Angelico, ça dépend, chacun peut y voir son peintre préféré. Et parfois, la personne qui me parle prend toute la place. C'est plus qu'un autoportrait, c'est immense. Et parfois, au contraire, je ne sais pas où la situer. Je pense à une femme que sa fille m'avait adressée. Je trouve que j'avais marié la fille, et un mois après son mariage, ses parents se séparaient. Vous imaginez la séquence, une drôle de séquence pour cette jeune femme, son mariage magnifique, un mois après la séparation totalement inattendue, brutale de ses parents. On connaît des couples qui ont attendu que le dernier, que les enfants soient tous majeurs pour se séparer. On en connaît d'autres qui n'avaient pas prévu mais qui se retrouvent ensemble à la retraite et après avoir coexisté toute leur vie ne peuvent plus vivre ensemble. Là, il y avait un moment bizarre, alambiqué. Notre fille s'est mariée, on va pouvoir se séparer. Sauf que ce n'était pas exactement une séparation, c'était l'abandon par un homme de sa femme. De sa femme qui lui avait pourtant consacré toute sa vie. Et je l'ai écouté longuement exprimer sa souffrance, sa colère, son incompréhension. Elle n'avait vécu que pour lui. Et elle n'avait pas besoin de... on disait de faire un dessin. Le tableau pour moi était très évident. Son mari, une idole immense. Les enfants un peu à côté. Et elle, où la situer? Peut-être, vous savez, comme certains peintres se représentent eux-mêmes dans un coin comme une sorte de signature. Est-ce que ce tableau me changeait ou me change agréablement des représentations totalement égocentrique, totalement autocentré, où, vous savez, la personne qui vous parle, la personne qui parle, prend toute la place, envahissante, à tel point qu'il y a, comme dans le discours, il y a place pour personne d'autre. Non, c'est la même tristesse. C'est la même tristesse, ce sont deux formes d'idolâtrie. Il peut y avoir l'idolâtrie de soi, ou l'idolâtrie d'un mari, d'une femme, mais ça peut être en dehors du couple. L'idolâtrie d'un être humain. Et une idolâtrie, chaque fois, non seulement dont Dieu est absent, mais qui refuse Dieu. C'est ça le propre de l'idolâtrie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est le grand commandement. Et le second qui est inclus dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu t'aimeras. Tu t'aimeras toi-même. Ni plus ni moins. Il faut commencer par s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et notre amour pour les autres, notre amour pour le prochain, doit nous rendre heureux, joyeux, forts. La force du Christ qui se manifeste tout au long de l'Évangile, dont nous avons sur la croix l'aboutissement, l'apogée. Mais la force du Christ, c'est le signe de son humanité autant que de sa divinité. Adorer Dieu pour aimer les autres et se respecter soi-même. Dans le Saint-Testament, il y a le petit livre d'Esther, où le tuteur d'Esther, Mardochée, refuse de se soumettre à une puissance humaine. Tout le monde était obligé, tout le peuple était obligé de plier le genou. Il dit non, moi je ne me prosternerai devant personne, seulement devant le Seigneur. Pour ne pas mettre la gloire d'un être humain au-dessus de la gloire de Dieu. C'est une question de respect de soi, de dignité, le double commandement de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est en réalité un triple commandement. De l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'amour de soi. Au nom du Père, source de tout amour, et du Fils, le modèle de l'amour du prochain, et du Saint-Esprit, de la conscience d'être aimé de Dieu, d'être dépositaire de son amour, d'être un sanctuaire, un tabernacle vivant pour nous qui allons communier au corps du Christ. Et cette femme si malheureuse qui me demandait, mais que faire pour que mon mari revienne? J'ai dit, le moins brutalement possible, qu'il ne reviendrait pas tant qu'elle n'existerait pas. Parmi les raisons multiples qui ont fait qu'il était parti, il y en avait une qui était très claire, qu'elle avait cessé d'exister par elle-même, pour elle-même. Il faut commencer par exister. J'ai dit la même chose. Un jeune homme est conduit transi d'amour, d'admiration pour une femme. Il la décrivait bien meilleur niveau que lui, plein d'admiration. Il ne demandait qu'une chose, c'était de se mettre à ses pieds, à son service. Je lui dis, elle est partie parce qu'il n'y avait personne. Personne en face. Et il avait de la chance. Il avait de la chance qu'elle se soit lassée. Et qu'elle ne l'ait pas pris comme jouet. Tant de personnes qui se satisfont, qui se rassurent de la présence d'adulateurs ou d'adulatrices. Le Christ a détruit ce mécanisme. Il a interdit à ses disciples, parmi vous il ne doit pas en être ainsi. Les puissants de ce monde règnent en maître, se prennent pour des roitelets, des monarques. Parmi vous il ne doit pas en être ainsi. Pour parler en langage moderne, il a interdit les gourous. Quel moyen a-t-il donné? C'est une question qui est réellement d'actualité. Comment faire pour éviter les abus, en particulier les abus spirituels, les abus d'autorité? Eh bien, il faut se souvenir de quelle façon il a envoyé ses disciples en avant de lui. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord la paix. La paix à cette maison. Le Seigneur ne nous envoie pas à la conquête du monde. Ce n'est pas ça le règne de Dieu. Il nous envoie en serviteurs de la réconciliation pour que nous puissions, pour que nous commencions déjà par nous réconcilier nous-mêmes avec le Seigneur et pour que nous puissions annoncer. C'est cela la bonne nouvelle. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, avec vous-même, avec les autres. Et à leur retour, il faut prendre la séquence tout entière, il dit, venez à l'écart. Vous reposez un peu. Venez prier. C'est ce que nous vivons ce matin. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, dit Jésus, et je vous donnerai de la lucidité. De la lucidité. Le problème de la fatigue, puisque nous sommes en cette période de l'année au pic de fatigue de l'année, je vous le dis tous les ans, dans cette période que les anciens appelaient l'entre-deux vierges, entre le 21 novembre, fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple, et le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, c'est traditionnellement, on le sait, le pic de fatigue de l'année. Le problème, c'est l'engourdissement de la pensée, la perte de lucidité. Voyez, la parole du bon larron, ce miracle, une merveille d'inspiration au comble de la déchéance, de la souffrance, de l'épuisement. Cet homme est capable d'appeler Jésus par son nom, Jésus. Jésus mon frère, Jésus mon roi. Et il est capable de dire ce qui est juste. Au retour des disciples, quand ils reviennent de mission, Jésus les prend à l'écart pour qu'ils racontent ce qu'ils ont fait. Il le sait lui-même, il est Dieu, il le sait de toute éternité. Je voyais Satan tomber comme l'éclair. Mais il montre ce que nous devons vivre entre nous, comment nous devons raconter, et autant écouter l'autre raconter ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Dans un couple, c'est vrai également, dans une communauté, il y a les deux extrêmes. Il arrive très bien qu'il y en ait un qui ne s'aime pas lui-même, ou à l'inverse, qui s'aime trop. Il y en a un qui pense que seule son activité a de l'intérêt. Et l'autre qui pense que ce qu'il fait n'a aucun intérêt, c'est pas la peine d'en parler. Le pire, c'est quand les deux se rencontrent. C'est ce qui arrive, c'est ce qui détruit un couple. Quand il y en a un qui pense que seul lui-même est digne de parole, d'intérêt, et l'autre l'inverse. Pour que vive une relation, il faut être deux. Deux à le vouloir. Il faut vouloir d'abord exister soi-même. Et vouloir que l'autre existe pour pouvoir être à égalité et grandir dans l'amour. Les trois efforts à faire et à concilier au soir d'une journée sont un temps de prière pour rendre grâce à Dieu, se remettre en présence de Dieu, un temps de partage pour revoir, et quand c'est possible, quand on n'est pas tout seul, quand on vit en couple, en famille, en communauté, pour pouvoir raconter, si c'est possible, sa journée. Et un temps de repos, de vrai repos, pour s'accorder, pour trouver la paix. Voyez comment ce bon larron, au soir de sa vie, évoque très pudiquement ce qu'il a fait. C'est le principe de la confession. Ouvrir son cœur à Dieu, à nos compagnons de vie. Il n'a pas peur de reprendre l'autre larron, lui faire ses reproches, pour dire surtout avec ses mots à lui, mais il faut les entendre ses mots à lui, il dit la grandeur de Jésus, il n'a rien fait de mal. Dans les représentations traditionnelles, le Christ est au centre, entouré des deux malfaiteurs, l'un qui l'injurie, l'autre qui le supplie et qui entre au paradis. Le Christ est au centre parce que c'est le propre de la foi de mettre Dieu au centre. Le Christ au centre de l'histoire, c'est ce que dit la deuxième lecture. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Le christianisme, c'est la seule religion où Dieu n'est pas au-dessus. Il n'est pas au-dessus de nos soucis, de notre vie, de nos ennuis, de nos souffrances. Il est Dieu avec nous. L'Emmanuel dans notre histoire. Le Seigneur de l'univers. Et toute la vie chrétienne consiste inlassablement à se décentrer de soi pour le remettre au centre. Lui, pas un artefact, pas un être humain. Lui, le Christ, Dieu. Une des conséquences de ce christocentrisme, c'est un autre nom du christianisme, le christocentrisme, une des conséquences est qu'il interdit politiquement et moralement quelque extrémisme que ce soit. Quand le Christ est au centre, aucun extrémisme n'est possible. Ça ne veut pas dire que le christianisme soit une religion de la mesure. La seule mesure, disait Saint Bernard, c'est d'aimer sans mesure, comme Jésus nous a aimés. Au nom du Père, source de l'amour, et du Fils, l'attention aux autres, et du Saint-Esprit, le respect de soi. Posez-vous la question de savoir qui est au centre de votre vie, si c'est bien le Christ. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui.